Réplique, Genet et les Palestiniens avec Albert Dichy et Éric Marty. Ce n'est pas du dramaturge qui vient de faire son entrée dans la bibliothèque de la Pléiade, ce n'est pas du poète, du romancier que nous allons parler aujourd'hui, c'est, si tant est qu'on puisse le couper en tranches, du Genet politique, du Genet militant, du Genet engagé, celui qui, selon ses propres termes, a été écrasé par le concept de France et est allé tout naturellement vers les peuples révoltés qui lui ont demandé son adhésion. Parmi ces peuples, un a surtout compté, les Palestiniens. L'ennemi déclaré est devenu, dans les 15 dernières années de sa vie, l'ami fidèle, le défenseur infatigable de la cause palestinienne. Il a accompagné les Palestiniens dans leur combat pour l'existence, au point de rompre pour eux son silence d'écrivain, par un article d'abord, écrit en septembre 82, 4 heures à Chatila, par un livre ensuite, Le captif amoureux, dont il corrigeait encore les secondes épreuves le jour de sa mort, le 14 avril 1986. Albert Dichy est l'un des meilleurs spécialistes de Jean Genet. Éric Marty, connu pour son édition des œuvres complètes de Barthes et pour ses essais sur Gide, sur Chartres, sur Althusser, publie dans son dernier livre, Bref séjour à Jérusalem, une étude intitulée Jean Genet à Chatila. Et ce que je voudrais d'abord demander à mes invités, c'est de commenter la réponse faite par Jean Genet lui-même à la question de savoir ce qu'il avait amené à s'engager aussi fortement pour l'OLP. Je cite, « En 1967, je ne sais pas qui était à l'origine de la guerre. Est-ce que c'est Nasser? Est-ce que c'est Israël? Je ne peux pas déterminer. Mais j'étais en Angleterre. J'ai pris le train pour venir en France. Comme ça, j'ai pris le train. » Dans mon compartiment, il n'y avait que des Anglais. Je leur ai demandé « Mais où allez-vous » Ils m'ont dit « Aidez Israël ». Et ils étaient tous juifs. Je suppose que vous admettez très bien que des Anglais aillent aider Israël qui est en danger. Pourquoi me demandez-vous pour quelle raison j'ai été aider un peuple qui est en danger ? Entre les Juifs anglais et Israël, il y avait des affinités. Il y a entre les Palestiniens, les Panthères noires, la fraction armée rouge et moi des affinités. Et il est normal que j'aille les aider. » Fin de citation. Quelle réflexion vous inspire cette comparaison et cette normalité, Albert Dichy?
Alors écoutez, dans l'entretien que vous citez de Genet, il évoque deux choses pour expliquer ses affinités avec les Palestiniens. La première, c'est son histoire personnelle. Ce qui signifie d'emblée que le Genet qui arrive auprès des Palestiniens durant cette période n'est pas du tout coupé du reste de son œuvre. C'est l'écrivain, c'est Genet poète qui arrive dans ce pays. Donc il n'y a pas de coupure réelle. L'autre élément qu'il cite, c'est qu'il raconte une petite anecdote de son premier contact avec les Palestiniens à ce moment-là. C'est juste après le moment où il évoque ses affinités avec les Palestiniens. Il dit qu'il entre dans une salle où on le fait attendre pour être reçu par un responsable palestinien. Il voit de jeunes Palestiniens dans cette salle qui sont en train de tambouriner sur des caisses. Au moment où il sort, il se rend compte que ces caisses sont des cercueils. Et donc là, je pense que dans ce rapport comme ça, ce rapport qui, à partir d'éléments qui sont liés à la mort, tire une musique, à partir de ce rapport qui mélange à la fois le désespoir, la guerre, la mort, et un rapport de gaieté, un rapport de désinvolture, on a vraiment ce qui fait l'affinité de Genet avec les Palestiniens. Parce qu'au fond, toute l'œuvre de Genet, ça a été ça, ça a été tambouriné sur un cercueil. Je veux dire, son œuvre naît de là. Elle est une musique qu'on tire du malheur. Et l'affinité profonde qu'il y a avec les Palestiniens passe par cela.
Musique qu'on tire du malheur, mais d'une certaine manière, vous mettez de côté cette comparaison immédiate et assez étrange qu'il fait. Des Anglais juifs veulent aider Israël, vous l'admettez très bien. Eh bien, moi, c'est pareil. Quel sort faut-il faire? Quelle interprétation faut-il donner à cette analogie qui vient spontanément à l'esprit de Genet?
Peut-être parce qu'il se sent de la même famille que les Palestiniens. Le rapport qui lie les Anglais juifs qui se rendent en Israël pour participer au combat est un rapport, comment dire, familial, communautaire. Le rapport de Genet est un petit peu du même ordre.
Éric Marty.
Je trouve cette réponse de Genet très intéressante. Elle n'est pas anecdotique, comme le disait Albert Tichy, elle est mythologique. En effet, Genet situe l'origine de son engagement dans un train, dans le voyage justement, dans une sorte de situation d'errance. Genet n'est pas en France, il est à l'étranger comme toujours. Il est dans un train, il est avec des Juifs. C'est ce que vous disiez évidemment est très important, c'est que tout de suite s'établit ce que j'appellerais, disons, un rapport mimétique aux Juifs, de rivalité mimétique aux Juifs. C'est-à-dire que la pulsion naturelle, finalement, ou dite naturelle, ou soi-disant naturelle, que les Juifs, selon lui, auraient à s'engager pour Israël, eh bien, en quelque sorte, il me semble qu'il a, à l'égard de cette pulsion, un rapport de rivalité mimétique. Et ça, je crois que c'est très important, parce que Genet est toujours, en effet, dans un rapport, non pas superficiellement politique aux choses. Il est soit dans le mythe, soit dans la métaphysique, et les deux s'accordent, bien sûr. Et ici, cette réponse me paraît très, très claire. Maintenant, elle m'apparaît aussi intéressante parce qu'elle donne le sérieux de l'engagement de Genet. C'est en effet un sérieux qui ne relève pas du sérieux du discours politique. L'identification des Black Panthers, des Palestiniens, de la fraction armée rouge est tout de même intéressante aussi. On y reviendra peut-être. Mais surtout, elle est énigmatique parce que, comme tout est, comme l'engagement de Genet en politique est énigmatique, il cite les Black Panthers. En effet, Genet est allé soutenir les Black Panthers. En même temps, dans le Captif amoureux, lorsqu'il parle de cette expérience, que dit-il? Il dit que finalement, ce qu'il fascine, c'est le fascisme à l'œuvre. Je cite. « Les révolutionnaires risquent de s'égarer dans trop de miroirs. Il faut pourtant des moments saccageurs et pillards, côtoyant le fascisme, y tombant quelquefois momentanément, s'en arrachant et y revenant avec plus d'ivresse. » Voilà comment, dans le Captif amoureux, Genet commente son engagement auprès des Black Panthers. Et donc, on comprend alors que finalement, faire côtoyer Black Panthers palestiniens relève en réalité du monde de Genet. Et non pas du monde réel de la politique, non pas d'une géopolitique réelle, non pas des conflits. Il se moque en effet de savoir qui a commencé la guerre, en 67, Nasser ou un autre, quelle importance. Oui. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que Genet inscrit le politique dans son univers, ce que je comprends très bien. Mais en même temps, évidemment, ça nous oblige à lire la politique de Genet de manière un tout petit peu différente que celle, je sais pas, que la politique de n'importe qui, d'un sujet quelconque.
Oui, mais en même temps, vous dites... Vous parlez de rivalité mimétique et vous parlez aussi
oui,
de fascination.
C'est le pourquoi pas moi.
Oui, mais
les Juifs ont le droit. Les Juifs ont le droit. Oui. Eux ont le droit d'avoir raison.
Oui, mais alors
naturellement, moi aussi, j'ai le droit d'avoir raison naturellement. C'est ça.
Donc il y aurait comme deux pôles assez contradictoires, cette rivalité mimétique et puis une certaine tentation, une certaine fascination pour un moment fasciste. Mmh. Alors je voudrais aussi. Enfin, Albert Dichy, je lis simplement un passage de 4 heures à Chatila que je verse au dossier de notre discussion. Le choix que l'on fait d'une communauté privilégiée en dehors de la naissance, alors que l'appartenance à ce peuple est native, ce choix s'opère par la grâce d'une adhésion non raisonnée, non que la justice n'y ait sa part, mais cette justice et toute la défense de cette communauté se font en vertu d'un attrait sentimental, peut-être même sensible, sensuel. Je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les Palestiniens. Ils ont le droit pour eux, puisque je les aime. Et il ajoute, mais les aimerais-je si l'injustice n'en faisait pas un peuple vagabond. Donc là, il me semble qu'il y a les deux pôles que vous signalez, une certaine esthétisation de la politique. Et puis d'un autre côté, un peuple vagabond, et là on est plutôt dans le registre de la rivalité mimétique. Albert Dichy.
Alors bien entendu, dire que Genet n'est pas un sujet politique comme un autre, on l'espère bien, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui pour en parler. C'est bien parce qu'il a apporté un autre regard, parce qu'il a donné une œuvre à son... je n'aime pas le mot d'engagement, mais disons à son accompagnement des Palestiniens, que nous en parlons aujourd'hui. Quant à la notion de fascisme, je trouve quand même assez étonnant d'appliquer ce terme à quelqu'un qui a apporté en tout cas son appui à deux grands mouvements, le mouvement noir américain et les Palestiniens. Effectivement, dire que c'est un engagement fasciste, je veux bien,
J'ai cité une phrase de Genet qui dit lui-même.
Mais le terme de fascisme vient de vous.
Non, il vient de Genet.
Oui.
Il faut pourtant des moments saccageurs et pillards, côtoyant le fascisme, y tombant quelquefois momentanément, s'en arrachant et revenant avec plus d'ivresse. Page 424-425 du Captif amoureux. c'est pas moi qui l'invente, c'est Genet qui le dit.
Côtoyant et s'en arrachant.
Et y revenant avec plus d'ivresse.
Bon, mais bien entendu.
En effet, Genet n'est pas un sujet politique quelconque. Il est tout à fait extraordinaire comme sujet politique. Parce que, et on y reviendra peut-être, en effet, Genet soutient les Palestiniens. Il aide les Palestiniens, et je ne doute pas de sa sympathie réelle pour le monde arabe, pour le monde palestinien. Je comprends très bien, finalement, ce qui a pu séduire Genet chez les Palestiniens, et ce qui, finalement, séduit tout le monde chez les Palestiniens, effectivement, leur dénuement, hein, leur souffrance. Je comprends très bien, je ne mets pas du tout en doute cela. Simplement, Genet est quelqu'un de très compliqué. Et finalement, ce type d'adhésion, qui est une adhésion de l'ordre du bien, je crois, ne peut pas satisfaire intégralement sa personnalité et son être. D'où des rapports quand même très compliqués avec le mouvement palestinien. D'où une ironie permanente à leur égard, quand ils se moquent justement des pauvres de petites stars, des fedayines, ou quand ils dénoncent, ce qui est quand même en 1986, la corruption financière au sein du peuple, au sein du mouvement de l'OLP. Aujourd'hui, on le fait très prudemment en 2003, quand on s'autorise à le faire. Dès ce moment-là, lui dénonce, enfin, se moque. Et la trouve d'ailleurs son importance. Quand il brise tous les mythes palestiniens, par exemple, tout le monde sait évidemment qu'en septembre 71, le peuple palestinien a subi une répression atroce menée par Hussein de Jordanie. Le mythe palestinien consiste à dire qu'en réalité, Hussein ne faisait qu'obéir aux injonctions sionistes et américaines. Que fait Genet dans Le Captif amoureux? C'est de dire, en fait, hélas, la réalité, que le peuple, que les milices palestiniennes se comportaient de manière terrible en Jordanie, qu'ils étaient détestés par les Jordaniens, qu'il y avait d'énormes problèmes, qu'il y avait des combats. Bref, il fait de la délation. Il dénonce, il trahit. Il trahit parce que, justement, tout en maintenant, bien sûr, l'idée qu'en fait, c'est le pouvoir sioniste qui a voulu cette répression, 3000 morts, eh bien, néanmoins, il trahit. Mais il va plus loin que trahir. Je pense qu'il va très loin dans la trahison, en tout cas. Par exemple, lorsqu'il associe le combat palestinien à un combat de type satanique, à plusieurs reprises, il associe, en effet, ce combat palestinien, non pas du tout à un combat politique réel, à savoir le droit d'un peuple à avoir une terre. Cela, au contraire, ça le dégoûte. L'idée que le Palestinien puisse revendiquer quoi que ce soit de réel le dégoûte. Au fond, il aime la justice qui les a rendus errants. Il aime cette injustice. Et lui, pour elle, c'est là où est la vérité des Palestiniens.
Mais il aime, à travers plus encore que cette injustice, l'errance des Palestiniens.
Tout à fait.
Oui, donc,
tout à fait.
Albert Dichy.
Oui, je crois qu'il faut tout de même, prendre la mesure de ce qu'a été ce qu'on appelle un petit peu ici couramment l'engagement de Genet. Et donc, Genet n'entre pas dans cette histoire quand même terrible qu'a été le conflit israélo-palestinien comme un pur militant. Je veux dire, l'idée qu'il soit un militant est vraiment une idée faible, disons. Genet, en réalité, arrive comme témoin. C'est le terme qui arrive à la fin d'Un captif amoureux. Et il est témoin de quoi? Il n'est pas le témoin du désir de retour des Palestiniens. Il n'est pas témoin de la revendication des droits des Palestiniens. Il est le témoin exact du moment où les Palestiniens change de statut, c'est-à-dire passe du statut de réfugié opprimé à celui de combattant. C'est là le moment de jeûner. C'est le moment où le peuple palestinien se constitue comme peuple. Il n'est pas celui du moment où les Palestiniens réintègrent leurs droits, leur territoire, leur jardin, comme il dit, retrouvent leur maison. Cela, il ne l'accompagne pas. Ce qui l'accompagne...
Il le condamne. Il condamne la revendication territoriale.
Ah oui, c'est-à-dire...
Il condamne textuellement la revendication territoriale.
Il ne la condamne pas, il dit plutôt qu'elle ne l'intéresse pas. Dans l'entretien dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, il dit « Le jour où les Palestiniens seront institutionnalisés, je ne serai plus de leur côté. Le jour où les Palestiniens deviendront une nation comme une autre nation, je ne serai plus là. » C'est une manière de dire « Le combat m'intéresse, l'errance m'intéresse, le reste n'est finalement pas de mon ressort. » Et ce qui peut apparaître étrange, c'est que cet homme qui n'est pas un militant comme un autre... qui réintroduit la cause palestinienne dans son univers poétique et pu être traité par les Palestiniens eux-mêmes, notamment par Leïla Chaïd et d'autres, comme une sorte de porte-parole de leurs revendications. Car là, il y a un hiatus, d'une certaine manière, qu'ils n'ont pas respecté.
Le terme de porte-parole n'est pas exact. Il est le témoin. Il est le témoin du moment où il se constitue. Ce n'est pas du tout la même chose.
Éric Marty.
Oui, en fait, je pense que pour lui, la question du territoire, c'est pas seulement qu'il va se désintéresser des Palestiniens, c'est que pour lui, la revendication territoriale même est une trahison. Voilà ce qu'il dit. Accepter un territoire, si exigu fut-il, où les Palestiniens auraient un gouvernement, une capitale, des mosquées, des églises, cimetières, mairies, c'était une hérésie tellement grave que même la pensée, comme la seule hypothèse, était un péché mortel, trahison à la Révolution. Il est, pour lui, précisément, la possession de terre, c'est en effet pas seulement quelque chose qui n'intéresse pas, qui ne touche pas, mais c'est quelque chose qui, pour lui, apparaîtrait comme trahison. Mais je reviens à la question, justement, du rapport politique de Jeunet aux Palestiniens. Jeunet est quand même quelqu'un de très étrange, parce que non seulement, effectivement, son engagement est très limité, circonscrit au côté guerrier, comme le disait Albert Dichy, à la transformation, en effet, d'un peuple... qui était jusqu'alors soumis, notamment à cause de l'occupation jordanienne, qui avait réduit les Palestiniens, en effet, avec une répression très très dure, devenant un peuple de combattants, en effet. Mais il est quand même très étrange, parce qu'il passe son temps à trahir ce peuple en même temps. Lorsqu'il le dénonce, par exemple, lorsqu'il ne cesse de ramener la question des liens entre les Palestiniens et Hitler, et le nazisme. Il y a... cette phrase, quand même, aussi, dans le Captif amoureux, où il dit les grandes familles palestiniennes ont été, dès 1930, les valets d'Hitler. Il ajoute, alors commençait le mouvement d'indépendance de la Palestine. C'est-à-dire qu'il associe, en réalité, et c'est une trahison pure, c'est-à-dire que c'est vraiment le Jeunet traître que, dont
est-ce ça que parle. C'est, oui, est-ce que c'est les trahis ou est-ce que ce n'est pas poussé justement à la provocation jusqu'à son point ultime, puisque dans Pompe funèbre, il en arrive justement, du fait de la haine de la France dont il est possédé, à faire quasiment l'éloge de Hitler et même des miliciens. Donc dans son univers à lui, dans son paysage mental, Hitler n'est pas complètement... un personnage négatif. Enfin, il ne faut peut-être pas prendre les choses au pied de la lettre, mais du moins, le défi de Jeunet vis-à-vis de la bonne société va jusqu'à, sinon une réhabilitation, du moins une sorte de revendication de l'hitlérisme. Ouais. Donc pour lui, ce n'est pas forcément une trahison, c'est une manière de dire, je vais jusque-là dans mon soutien à eux. Quoi.
Bien sûr pour lui, ce n'est pas une trahison, évidemment. Puisque le principe du mal fait que...
C'est le principe du mal qui peut associer ces deux termes.
Exactement, fait que, de toute façon, la trahison, c'est une activité, je dirais, tout à fait naturelle. Mais juste un dernier point, et puis on va effectivement laisser Albert Dichy répondre, parce que c'est une question importante. Non seulement, il me semble que je n'ai trahi le peuple palestinien, comme il dirait dans ses romans, comme il dirait dans Rame des fleurs, en étant une donneuse, c'est-à-dire il donne les Palestiniens. Mais en plus, il est trahi finalement en dévalorisant le sens même de leur combat. Pour moi, je crois que l'une des phrases les plus importantes d'un captif amoureux, c'est la suivante, où il définit le sens de son engagement et où on va voir justement, on va retrouver ce qu'on avait dit au début, à savoir le rapport de rivalité mimétique par rapport au monde juif. Il dit ceci. Si elle ne se fût battue contre le peuple qui me paraissait le plus ténébreux, celui dont l'origine se voulait à l'origine, qui proclamait avoir été et vouloir demeurer l'origine, le peuple qui se désignait nuit des temps, ce sont les juifs bien sûr, la révolution palestinienne m'eut-elle avec tant de force attirée. Alors là pour moi c'est la trahison ultime, dans la mesure où, en effet, de nouveau, je n'ai fait dépendre son engagement pour les Palestiniens de ce rapport de rivalité mimétique par rapport au monde juif qu'il définit de manière, je dirais, très claire ici.
Albert Dichy.
Bon, on a dit beaucoup de choses là tout à l'heure. Il y a beaucoup d'éléments. Il faudrait quand même bien clarifier quand même les choses. D'abord, la trahison du peuple palestinien par la critique de son fonctionnement ne me paraît pas être encore une trahison. Je veux dire, la trahison chez Jeunet est une chose plus grave que cette petite trahison gentille. Mmh. Là, ce n'est pas de l'ironie, c'est un regard lucide. Mmh. C'est un regard, voilà. Et son accompagnement du peuple palestinien n'est jamais aveugle. Il est toujours lié à une vraie évaluation de ce qui se passe. Bon. L'autre chose, alors on a parlé tout à l'heure donc aussi des miliciens et de Hitler. Je crois qu'il faut vraiment le dire avec force. Jamais Jeunet ne fait l'éloge de Hitler. Jamais. Jamais il ne dit que Hitler est le bien. Jamais il ne le fait.
N'en fait-il pas l'éloge en disant qu'il est le mal, si vous voulez, étant donné la transmutation des valeurs auxquelles il procède.
Le véritable crime, ça serait de dire que Hitler est le bien. Or, cela, jamais ne le fait, et Jeunet ne le fait. Dans Pompes funèbres, il dit « Hitler allait déclencher des actes terribles d'où naîtrait la plus stupéfiante floraison de cauchemars nocturnes qu'un homme à lui seul ait jamais suscité. » Donc, il n'y a jamais ce passage, cette conversion du mal en bien qui fait le fond de l'antisémitisme. Quant aux miliciens, il faut prendre les choses autrement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'éloge de la milice. Il y a beaucoup plus fort que cela. Là, je vous lis juste dans Pompes funèbres toujours un passage sur les miliciens qui éclaire, je trouve, parfaitement son rapport aux miliciens. Jeunet dit « Ils furent plus réprouvés que les filles, plus que les voleurs et les vidangeurs, les sorciers, les pédérastes, plus qu'un homme qui, par inadvertance ou par goût, aurait mangé de la chair humaine. Ils ne furent pas seulement haïs, mais vomis. Je les aime. » Là, nous avons peut-être le rapport le plus profond que Jeunet peut avoir avec ce type de problème dont nous parlons. C'est-à-dire que jamais Jeunet ne dit « ils ont été, je suis d'accord avec eux ». Il dit simplement « voilà, jamais personne n'a été dans une position d'exclusion aussi forte, jamais personne n'a porté le mal, on n'a jamais fixé le mal avec autant de force ». Sur des personnes, et parce qu'on a fixé le mal sur eux, je vais de leur côté. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire « je suis d'accord avec eux ».
Oui, je trouve que ces précisions sont très importantes. Cela étant, je voudrais maintenant mettre un peu les pieds dans le plat et poser directement la question de l'antisémitisme éventuel de Jeunet et peut-être de la forme antisémite qu'il donne de son soutien à la cause palestinienne. Et je ne dis pas ici, évidemment, que tout soutien à la cause palestinienne est antisémite. Évidemment, pas du tout. Hein, soyons précis. Mais il y a là un problème et que je voudrais poser avec quelques citations. D'abord, Jeunet dit « L'affirmation d'une beauté propre révolutionnaire pose pas mal de difficultés. On sait, on suppose que les enfants jeunes où des adolescents vivant dans les milieux anciens et sévères ont une beauté de visage, de corps, de mouvement, de regard, assez proche de la beauté des fédaïnes. Et donc, c'est la beauté des fédaïnes qui l'exalte, une forme d'esthétisation de son engagement politique. Mais il y revient dans l'entretien que nous avons cité en commençant, cette beauté, et il a cette phrase terrible, « J'ai été aussi dans des banques, je n'ai jamais vu de banquier qui soit beau ». Phrase étrange, mais quand même dont les connotations ne peuvent pas être inconscientes pour Genet. Et dans « Un captif amoureux », il dit d'abord qu'Israël est un bleu, une ecchymose qui s'éternise sur l'épaule musulmane, ce n'est pas rien. Et à un autre moment, il cite de manière très approbative un Français disant ceci, « La grande manifestation qui eut lieu en Israël contre la guerre au Liban en 1982 fut programmée avant le début de cette invasion. Tout avait été prévu, l'invasion elle-même, les bombardements de Beyrouth, l'assassinat de Béchir Guémaïel, les massacres de Shatila, l'écœurement très visible des télés et journaux du monde entier. Tout fut prévu jusqu'à ce haut le cœur du monde et le coup d'éponge final afin de rendre moins sale le visage d'Israël, la manifestation elle-même. » Nous sommes dans la théorie du complot. Est-ce que tous ces éléments ne suffisent pas pour dire « Oui, Genet lui-même était en effet... antisémite, et c'est aussi son antisémitisme qu'il a projeté dans le soutien qui était le sien à la cause palestinienne. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation un peu à gros traits, sans doute sommaire ?
Peut-être très rapidement avant, quelques mots sur Hitler et la milice, tout de même.
D'accord. Ça va nous éclairer.
Oui, parce que ça va quand même éclairer les choses. Le personnage d'Hitler fascine Genet de 1942, enfin 43, Miracle de la Rose, jusqu'en 1986, le captif amoureux. Hitler est un personnage récurrent, revenant, permanent quasiment, en tout cas dans ses œuvres en prose. Première chose.
Uniquement
il est présent. Non, pas du tout. Il est présent également dans Journal d'un voleur. Il est présent également dans Le Miracle de la Rose et sous la forme, en effet, d'un artiste sublime du mal. Et dans un rapport également qui est un rapport de fascination, pas seulement, je dirais, de type fantasmatique pour Hitler, de type érotique, mais aussi pour un rapport, je dirais, d'intimité métaphysique par rapport au mal. J'aurais juste fait une citation du Journal du voleur, qui est très belle, mais en même temps terrifiante. Genet écrit ceci. « Je donnerai tous les biens de ce monde, il faut en effet les donner, pour connaître l'état désespéré et secret que personne ne sait que je sais. Hitler seul, dans les caves de son palais, aux dernières minutes de la défaite de l'Allemagne, connut sûrement cet instant de pure lumière, lucidité fragile et solide, la conscience de sa chute. » Bon, que se passe-t-il entre Genet et Hitler ici ? Sinon, en effet, une identification profonde qui touche à des zones de son imaginaire qui ne sont pas tout superficielles, qui ne sont pas de l'ordre de l'excitation érotique, comme il peut en avoir par rapport à l'officier SS, par exemple, ou comme il peut en avoir par rapport au massacre d'Oradour-sur-Glane, à propos duquel il dit « j'aime l'officier qui a accompli ce massacre ». Non, ça va au-delà, je dirais, d'un niveau superficiel qui est toujours finalement ambivalent, c'est vrai. Là, ça n'est pas ambivalent. Donc, il y a cette dimension-là, je crois, qui est centrale et qui revient, justement, avec les Palestiniens. C'est ça qui est très étonnant. C'est qu'au fond, on aurait pu penser que même s'il y avait antisémitisme chez Genet, finalement, eh bien, l'hitlérisme était quand même très loin derrière lui. Or, c'est ça qui est important. C'est qu'Hitler revient avec l'antisémitisme par rapport aux Palestiniens. Et donc, il n'y a pas seulement un antisémitisme, si vous voulez, intellectuel. Il y a réellement un antisémitisme qui est très ancré dans l'imaginaire profond de Genet.
Albert Alors,
reprenons un petit peu les différents points. Hitler, hein. Qu'est-ce que Genet admire, si on peut utiliser ce terme, chez Hitler ? Ce n'est pas son entreprise, ce n'est pas l'extermination des Juifs. Ce qu'il admire chez lui, c'est la perfection avec laquelle il incarne la figure du mal absolu. C'est-à-dire le point d'exclusion totale de la communauté humaine. Hitler est celui sur lequel, qui interprète, il dit, c'est un comédien célèbre, il interprète ce rôle le plus fortement. Donc ce n'est pas son entreprise, c'est sa position dont il parle.
De plus, sur la question de la fascination, il faudrait encore voir les choses. Lorsqu'on dit que Genet était fasciné par Hitler ou le nazisme, il faut voir, par exemple, je peux citer la phrase que vous-même, d'ailleurs, Éric Marty, vous citez dans votre article, qui est celui-ci, vous le citez pour montrer, au fond, la façon dont il adhère au nazisme. Les Allemands seuls, à l'époque de Hitler, réussirent à être à la fois la police et le crime. Cette magistrale synthèse des contraires, ce bloc de vérité, était épouvantable, chargé d'un magnétisme qui nous affolera longtemps. Autrement dit, le propos de Genet, il n'est pas de témoigner de sa fascination pour Hitler. Il est de réfléchir à ce qu'a été la fascination du nazisme. Lorsqu'on dit qu'ils ont réussi à être à la fois la police et le crime, on a la plus formidable réflexion sur ce qu'a été vraiment le nazisme. Et donc, il ne suffit pas simplement de condamner le nazisme sans prendre en compte sa puissance de fascination.
Mais Ne pensez-vous pas, Albert Lichy, que si, justement, fascination il a pu y avoir chez Genet, cela vient peut-être de sa détestation, tout à fait compréhensible, de la France? Est-ce que ce n'est pas là, si vous voulez, le moteur même de son œuvre et peut-être de son engagement, C'est un homme qui, il le dit d'ailleurs, qui a été écrasé par le concept de France et donc qui a pu accueillir la défaite à sa manière, comme une divine surprise, mais nous ne sommes pas du tout dans l'univers maurassien, simplement, la France, tout d'un coup, est punie. Et cette détestation ne s'est absolument pas affaiblie après la guerre, elle a quand même commandé un certain nombre de ses comportements, un certain nombre de ses adhésions. Est-ce que c'est pas un élément d'explication fondamentale?
Bien entendu, Genet n'a jamais dit autre chose. Il a toujours dit que son approbation, en tout cas pour l'armée allemande, n'est faite qu'en vertu d'une seule chose, c'est que ça a été l'armée qui avait battu l'armée française, qu'il avait lui humiliée. Voilà. Donc il y a ce rapport qui joue, qui est évident. J'en conviens tout à fait. Un autre mot, simplement pour revenir sur la question essentielle de la beauté que vous avez soulevée tout à l'heure. Or, il faut dire une chose. La beauté chez Genet, elle est toujours associée à deux termes. Elle est associée au désespoir et à la révolte. Genet ne trouve beau que les gens désespérés qui se révoltent, qui se dressent. Donc du coup, le banquier, au fond, ce qui lui manque pour être beau, c'est peut-être justement un peu de désespoir.
Mais pourquoi le banquier, si vous voulez? Pourquoi le banquier face à la beauté du Fedaïn qui a établi avec son arme un rapport amoureux et magique?
Ce n'est pas toujours le banquier. Lorsqu'il parle des Algériens pendant la guerre, il dit les Algériens avant la guerre d'Algérie étaient tristes, laids, ils rasaient les murs, ils baissaient les yeux. Le jour où la guerre d'Algérie a éclaté, les Algériens de Paris sont devenus beaux, se sont promenés, ont eu le regard clair, net et franc. Donc la beauté, ça a toujours été ça chez Genet. Ce n'est pas simplement une beauté donnée, acquise. C'est une beauté qui se prend. La beauté, au fond, chez Genet, c'est toujours ce qui s'arrache à la honte.
Peut-être un dernier mot sur la question hitlérienne et du nazisme, avant de revenir peut-être à la question palestinienne. Il y a quand même un texte tout à fait étrange de Genet qui est dans L'enfant criminel, où, pour la première fois, en effet, ça date de 1947, où, en effet, Genet parle d'Auschwitz. Et que dit-il là-dessus? Il parle justement des monstruosités, enfin des crimes hitlériens. Il cite les fours crématoires, les ongles arrachés, les peaux tatouées, tannées pour abat-jour, etc. Et puis il compare cette situation à son propre sort d'enfant en prison. Mais que dit-il par la suite? Alors on pourrait évidemment, ça va dans le sens de ce que disait Albert Dichy. Bon. Mais non, pas du tout. Ça se transforme et ça se métamorphose. En effet, lorsqu'il parle des gens exterminés dans les camps, il dit « ces braves gens applaudissaient en nous voyant, nous, enfants, en prison ». Qui sont aujourd'hui un nom doré sur leur marbre. Donc ce sont les morts dont les noms sont sur le marbre. Quand nous passions menottes au poignet et qu'un flic nous bourrait les côtes. Il ajoute « Une seule chiquenaude de leurs gendarmes fut vivifiée par le sang brûlant des héros du Nord, les Allemands. Elle s'est développée jusqu'à devenir une plante merveilleuse de beauté, de tact et d'adresse, une rose dont les pétales tordus, retroussés, montrant le rouge et le rose sous un soleil d'enfer, son homme, de nom terrible, Majdanek, Belzen, Auschwitz, Mauthausen, Dora, je tire mon chapeau. » Alors, on voit bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en effet, au départ, il y a ce qu'on dit. L'enfant malheureux martyr qui se réjouit, en effet, de la défaite de ceux qui l'ont martyrisé. Et puis, tout d'un coup, non, c'est pas seulement ça. Tout d'un coup, ça se métamorphose en fascination pour l'horreur et en « je tire mon chapeau », finalement, pour la radicalité avec lequel le mal s'est déployé jusqu'au bout. Finalement, Genet a une vision très gnostique du monde. Le monde est mal, eh bien, rajoutons du mal au mal pour épuiser ce mal. Voilà ce que je dirais pour expliquer finalement le caractère fou et halluciné des propos que tient ici Genet sur Auschwitz.
Alors,
la, 47.
Je voudrais poursuivre sur la question de l'antisémitisme et ce qui m'apparaît être, face à cette question, une sorte de deux poids, deux mesures de la pensée. Vous commencez votre texte sur Genet, Éric Marty, par une citation de Sartre, du Saint Genet, comédien et martyr. Genet est antisémite, ou plutôt il joue à l'être. On imagine bien qu'il lui est difficile de soutenir la plupart des thèmes de l'antisémitisme. Et Sartre conclut, ce qui n'est qu'une note dans ce livre, ce qui répugne à Genet chez l'israélite, c'est qu'il retrouve en lui sa propre situation. D'une certaine manière, il s'interroge sur l'antisémitisme de Genet et il l'absout. Il le blanchit, ne fût-ce que par l'explication qu'il en donne. Le même Sartre a écrit « Réflexion sur la question juive » quelques années auparavant. Hein, et il a fait un portrait au vitriol de l'antisémite. Mais qu'est-ce que l'antisémite pour Sartre? C'est le vrai Français enraciné dans sa province, dans son pays, porté par une tradition de 20 siècles. L'homme qui est à la fois propriétaire de ce pays est comme approprié par lui. D'où cette phrase, l'antisémite est le poète de la propriété foncière. Et il continue, il dit au fond, pour l'antisémite, le juif est assimilable à l'esprit du mal. Le mal vient de lui, par lui le mal arrive sur la terre. Il revient sur cette question du mal, Sartre, dans le Saint Genet. Un passage absolument magnifique. Hein. Il dit ceci, l'action modifie ce qui est au nom de ce qui n'est pas encore, elle est une sorte de révolution permanente. Nos sociétés bourgeoises n'aiment pas qu'il y ait un moment négatif dans l'activité, donc d'une certaine manière, elles ne valorisent que des actions comme entretenir, maintenir, conserver. Mais dit Sartre, l'esprit est inquiétude. Cette inquiétude fait horreur à l'homme de bien, donc il s'agit de la supprimer et on la supprime et on arrête l'esprit en expulsant la négativité. Voilà. Donc il y a l'homme de bien qui s'identifie à l'être et le négatif, il l'expulse de lui-même, il nomme tentation tout le grouillement vague des désirs qu'il sent en lui-même mais dont il veut en quelque sorte se délivrer. Le mal, dit Sartre, c'est l'unité de toutes les pulsions que l'homme de bien rejette. C'est ce qu'il veut et ne veut pas vouloir. C'est l'autre en lui. Et de cet autre en lui, il fait l'autre que lui. Et Sartre ajoute, donc, l'homme de bien a besoin d'un homme de mal. Et cet homme de mal, ce sera l'opprimé et ce sera encore plus l'exclu. Donc, ce sera Genet, par exemple. Et là, on a, si vous voulez, donc, l'antisémitisme de l'homme de bien, c'est une horreur. L'antisémitisme de l'homme de mal, du rebelle, non, ce n'est pas une horreur, ça mérite une explication. Et donc, il y a là une vraie difficulté, c'est-à-dire on ne pardonne rien à ce qui vient du même, on explique tout, on excuse tout de l'autre, hein, ce qui vient de l'autre est immédiatement blanchi. Donc il y aurait comme un bon antisémitisme du rebelle. Est-ce qu'on peut se contenter, en quelque sorte, de ce deux poids, deux mesures? Et d'ailleurs, même chez vous, Éric Marty, il y a un peu quelque chose de cet ordre, parce que vous dites, l'antisémitisme de Genet, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme crasseux de Drummond. C'est forcément plus intéressant. Et j'ai envie de poser une question bête, pourquoi?
C'est très simple, c'est que qu'un Drummond a affaire au stéréotype du juif, déjà stéréotypé, il me semble, et c'est ça qui est en effet passionnant chez Genet, et terrible en même temps, qu'il a affaire aux Juifs réels. En effet, il y a un Genet antisémite crasseux aussi. Par exemple, lorsqu'il dit à Roger Stéphane, comment pouvez-vous être juif et de gauche? Les juifs n'aiment que l'argent. Bon, il y a un côté comme ça, banalement antisémite de Genet, qui est le Genet quotidien. Mais ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement le Genet métaphysique, qui tente en effet de capter le juif. Là, il y a un exemple tout à fait fascinant, c'est quand son traducteur américain lui dit « Mais Genet, pourquoi dites-vous que les juifs sont immondes ?» Qu'est-ce que ça veut dire, les juifs sont immondes? Ça veut dire qu'ils ne sont pas de ce monde. Bon, cette réponse-là signifie que Genet a un rapport, en effet, très haut aux juifs, très élevé, dans le mal. Parce qu'il saisit le juif, non pas justement dans toute une couche, ce que j'ai appelé crasseuse, de stéréotypes, non, il tente de le saisir en lui-même. Et un deuxième élément, un deuxième exemple de cette, je dirais, profondeur terrible de Genet, c'est quand il dit à propos du commando israélien, déguisé en femme, qui va tuer des responsables palestiniens de la mort des athlètes de Munich.
Parmi lesquels se trouvait Oud Barak.
Parmi lesquels se trouvait Oud Barak. Il dit, oui, mais ces juifs, ces israéliens qui étaient déguisés en femme, en fait, ils n'ont pas accompli la métamorphose complète. Et il oppose à ce moment-là le juif à l'humanité qui, elle, est capable de transsexualisme, de métamorphose, qui fascine Genet. Et il dit à ce moment-là, il s'interroge, comment se fait-il que les Israéliens, justement, les juifs ne peuvent pas ça? Il dit, c'était cette fierté cristalline, la fierté d'être juif, mais alors la fierté de n'être pas le reste des hommes. C'est-à-dire qu'en effet, ils ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas de ce monde. Ils sont immondes, pas de ce monde, ils sont ailleurs, ils sont l'origine, ils sont ténébreux, etc. C'est-à-dire que Genet, en fait, à côté d'un antisémitisme vulgaire, qu'on peut percevoir ici ou là, a en effet un rapport, je dirais, très profond au judaïsme et à la judéité. Et sa haine, en réalité, est un rapport, je dirais, en effet, de rivalité mimétique. Et en ce sens, en effet, il peut dire quelque chose de manière, je dirais, non pas positive, négative, bien sûr, mais qu'il faut lire jusqu'au bout et ne pas rejeter, ne pas mettre à la poubelle, mais au contraire, lire jusqu'au bout, en effet.
Albert Dichy.
Bon, regardons aussi les choses plus clairement. Dans toute la première partie de l'œuvre de Genet, c'est-à-dire dans tous les écrits antérieurs à la période palestinienne, il n'y a pas une seule trace d'antisémitisme dans l'œuvre de Genet. Tout ce qui est dit ne fait que reporter des propos rapportés. Donc, du coup, parler de comparer Genet, Céline, Drumont, Éric Marty l'a très bien dit, ça n'a pas de sens. Genet n'est pas du tout un antisémite obsessionnel ou truc obsessif. Tout de même, c'est tout de même important, et on a même des éléments qui vont même dans le sens contraire. Puisque lorsque, par exemple, Albert Memmi publie « Portrait d'un juif », Genet lui écrit pour lui dire son émotion à la lecture de ce livre, lui écrit pour lui dire aussi à quel point il admire les juifs de s'être fait, lors du procès d'Eichmann, justice eux-mêmes. Donc il y a des rapports aussi très positifs aux juifs. Après tout, dans 4 heures à Shatila, qui est un des textes où Genet justement est le plus litigieux par rapport aux problèmes juifs, il y a un seul philosophe, une seule personne qui est nommée dans ce texte, c'est Hannah Arendt. Dire que Genet est antisémite de façon massive comme ça, de façon totale, de façon obsessionnelle, hallucinée, ça me paraît quand même difficile. Maintenant, il est évident, je l'ai dit chaque fois que j'ai publié un texte de Genet, je l'ai signalé, il y a effectivement un rapport au judaïsme, aux juifs, très litigieux chez Genet, et qui passe effectivement par des développements antisémites. Mmh. La seule chose, c'est que pour comprendre cela, il faut aussi comprendre qui était Genet. Il faut aussi comprendre que Genet, au moment où il entre en littérature, est quelqu'un dont l'œuvre s'inscrit d'emblée et s'écrit au nom de coupables. Genet défend les coupables. Genet défend les condamnés à mort, les grands assassins, les grandes figures du mal. Genet défend tous ceux qui font l'objet d'une exclusion de la communauté humaine. Et Genet n'a jamais plaidé pour sa propre innocence. Donc, il y a aussi cela chez Genet, c'est-à-dire qu'au fond, les Juifs lui apparaissent comme une figure trop innocente. Il y a ce problème chez Genet. Mmh. Les Juifs sont trop innocents. Lorsqu'ils s'intéressent aux Palestiniens, il y a un élément qu'ils signalent et qui est très important. Les Palestiniens sont, à cette époque-là, des terroristes. Le premier acte qui attire son attention sur les Palestiniens, c'était les attentats dans les avions commis par le FPLP à l'époque où ça apparaissait comme un terrorisme très fort. Donc, du coup, il y a chez Genet quelque chose qui va toujours du côté de ceux qui sont condamnés.
Oui, mais quand il va du côté de ceux qui sont condamnés, par son lyrisme, par son attention, par la beauté même de son style, il est vrai, le texte 4 heures à Chatila est absolument extraordinaire, il les innocente. Et il faut quand même se demander l'usage que fait aujourd'hui le politiquement correct, ou le nouveau parti du bien, qui n'a rien à voir avec l'homme de bien selon Sartre. De Genet. J'ai ici un livre publié dans la collection Découverte de Gallimard. C'est pas n'importe quoi, c'est pour les adolescents, les enfants, c'est l'initiation, avec toute une iconographie, donc. Et le titre, magnifique, Jean Genet, portrait d'un marginal exemplaire. Alors on se dit, s'il y a vraiment quelque chose que Genet n'est pas, c'est exemplaire, c'est difficile, effectivement, de passer à l'universel. Si vous voulez, il échoue devant la maxime kantienne, on peut pas universaliser ses maximes. Mais, or, il semble que cela soit possible pour Genet, c'est-à-dire du fait qu'il est un marginal, du fait qu'il est un condamné, du fait qu'il est un exclu, tout chez lui se justifie. Aujourd'hui, on le voit encore, c'est-à-dire grande vigilance face à tout ce qui peut apparaître comme l'antisémitisme franchouillard ou le racisme franchouillard, et au contraire, complaisance, aveuglement pour tout ce qui procède justement de la figure constamment valorisée du rebelle, du marginal, de l'autre. Et on peut dire que Jean Genet, le politiquement correct aujourd'hui, lui voue un culte. Et s'il y a quelque chose que vous dites l'un et l'autre, c'est qu'il ne peut être en aucun cas Genet politiquement correct.
Absolument. Non, je crois que là, Albert on ne peut Dichy. Absolument pas classer Genet comme politiquement correct. Et au contraire, je dirais que c'est même la pensée politiquement correcte qui contre Genet. Je dirais aussi que le terme d'exemplaire ne lui convient pas du tout. Il ne s'est jamais donné comme exemple et il n'a jamais prétendu l'être.
Éric Marty.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a, premièrement, un antisémitisme qui n'est pas, en effet, obsessionnel au sens où son œuvre n'est pas remplie du début jusqu'à la fin de flots d'antisémitisme permanent. Néanmoins, il y a des propos qui sont absolument sans ambiguïté lorsqu'il se réjouit de l'image de juifs des camps nus dont la faiblesse est un appel, une provocation à les battre encore. Je m'excuse, non. C'est un propos qui est un propos d'hallucination antisémite. Et si j'ai dit halluciné, c'est qu'en effet, l'antisémitisme de Genet passe par bouffée d'hallucination. En effet, c'est rarement un antisémitisme qui est, je dirais, discursif, comme Drummond, justement, ou de type syllogistique. Non, c'est par hallucination. Deuxième point, c'est la dimension politique. Et ça, c'est pour moi là le plus grave, parce que ça nous touche aujourd'hui, la dimension politique de l'antisémitisme de Genet lié aux Palestiniens. Alain Finkielkraut a cité le propos de Genet qui dit qu'en effet, la manifestation de proteste de réprobation de Tel Aviv était organisée avant que Sabra Chatila ait eu lieu. Bien. Dans un entretien, Leila Shahid, qui est dans L'ennemi déclaré, dit justement qu'en réalité, les massacres de Chatila et la manifestation sont une seule et même chose. Une seule et même chose.
C'est Leila Shahid qui parle.
Ouais, la manifestation fait partie du massacre. Page 293, L'ennemi déclaré. C'est-à-dire que finalement, l'Israélien de la main gauche massacre et de la main droite font une sorte d'acte humaniste pour maquiller, effacer le crime. Qu'est-ce que c'est ça? Sinon, poser le juif, finalement, les juifs et les israéliens, comme dans une position de criminel. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il? On assiste à une depuis 2 ans, depuis le début de la seconde intifada, à une équation qui fait d'Israël le criminel et qui fait d'Israël le lieu du crime. Je crois qu'en ce sens, en effet, Genet, si on lit son œuvre bêtement, comme si elle était justement politique, alors qu'elle est en réalité folle, métaphysique, personnelle, si on la lit comme politique, en effet, on peut très facilement adhérer à de tels propos et finalement cautionner un antisémitisme réel qui, lui, n'est plus du tout celui d'une personne isolée, mais celui d'un peuple, hélas, le peuple palestinien, avec ses dirigeants et avec ses propagandistes comme la Shaïd.
Albert Vichy.
Là, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Le propos que vous citez est exagéré, est tout à fait condamnable, si vous voulez. Mais il me semble que, en fait, dans vos propos, vous procédez au fond de la même façon que Genet. C'est-à-dire que ce qu'on peut reprocher, une des choses qu'on peut reprocher à Genet, c'est justement de ne pas avoir su maintenir la ligne frontière entre son attaque contre Israël, qui est une attaque politique, qui est une attaque, il a le droit de penser ce qu'il veut, et le peuple juif. Il y a de temps en temps des débordements. Mais lorsque vous dites cela, vous faites la même chose, c'est-à-dire que de nouveau, l'attaque contre quelque chose qui a trait au gouvernement israélien devient une criminalisation du juif. Pas du tout.
Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis que dire que massacrer et manifester contre le massacre, c'est une seule et même chose. Dire cela, en effet, est un propos qui est une manière de
mais
dire...
Mais ce n'est pas un propos contre les Juifs.
Comment ça?
Mais c'est un propos contre Israël.
Oui, d'accord, bien sûr. Mais,
oui, mais c'est vrai, c'est un propos contre Israël qui projette sur Israël une vision conspirative de l'histoire, donc qui déplace sur Israël un antisémitisme ou une paranoïa dont les Juifs, avant Israël, ont été la cible. Alors, tout de même.
Peut-être que nous ne le faisons pas nous-mêmes.
Simplement, ça veut dire ceci, c'est qu'avec Israël, il ne peut pas y avoir un seul innocent. Parce que celui qui serait innocent, et donc qui protesterait contre les crimes de ses frères israéliens, serait aussi coupable, puisqu'en fait, il serait la même chose que le massacreur. Le manifestant est le même que le massacreur.
Bien, alors, nous terminerons là-dessus. Je voudrais quand même ajouter en post-scriptum que notre émission portait sur le rapport de Jean Genet et des Palestiniens, et que s'il y a en effet plus que des ambiguïtés dans un certain discours de Genet, approuvé par Laïla Shaïd sur les Palestiniens, ce n'est pas pour autant que la cause palestinienne en elle-même est une cause injuste et que l'on doit s'opposer en vertu de cela à la création d'un État palestinien, parce que là, on pourrait assister en effet à une instrumentalisation de l'antisémitisme au service d'une politique déterminée qui, comme toute politique, en effet, doit pouvoir être contestée. Je crois que cette précision était absolument nécessaire et je voulais vous remercier Éric Marty et Albert Vichy, rappeler Éric Marty que vous venez de publier dans la collection L'Infini chez Gallimard, Bref séjour à Jérusalem, ainsi que dans Critique, un article portant sur le théâtre de Genet, Jean Genet dramaturge ou l'expérience de l'autre, et précisément cet article a été écrit à l'occasion de la parution en Pléiade du théâtre complet de Genet dans une édition présentée, établie et annotée par Michel Corvin et Albert Dichy. Merci à vous donc, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Yael Mandelbaum, prise de son Guy Senot, réalisation Didier Lagarde. Samedi prochain, l'émission aura pour titre Être sociologue aujourd'hui, mes invités seront Raymond Boudon et Michel Vivorca.